Rock.
Classique 21, le moment M. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte le moment qui est à l'origine de la chanson Aqualung de Jethro Tull. 1971, Londres. Depuis la fin des années 60, Ian Anderson avance à contre-courant. À l'heure où le rock sacre les Guitar Heroes et glorifie les postures conquérantes, Ian Anderson fait figure d'original. Une flûte traversière là où d'autres arborent leur Fender Stratocaster. Pas de slogan ni de discours, mais un humour sec, décalé. Il ne prêche pas, il observe, dissèque, raconte. Avec Jethro Tull, il a déjà signé plusieurs albums remarqués. This Was pose les bases, Stand Up impose une identité singulière. Benefit confirme que le groupe n'est pas un accident, mais une anomalie durable dans le rock britannique. Le succès est réel. Les salles se remplissent. La presse suit. Pourtant, Anderson ne s'abandonne jamais totalement à la mécanique du triomphe. Peu à l'aise dans le costume de star, il préfère marcher dans Londres que parader sur les tapis rouges. Londres, justement. Une ville qu'il parcourt à pied presque quotidiennement. Il en connaît les contrastes, les vitrines élégantes, les rues bruyantes, les quartiers en mutation. Il voit aussi ce que beaucoup préfèrent ignorer. Des silhouettes immobiles sur des bancs, des hommes assis à même le sol, des corps qui semblent appartenir au décor comme des éléments urbains devenus invisibles à force d'être là. Ian Anderson n'est pas militant au sens classique. Il ne distribue pas de slogans, mais il regarde. Et ce regard est souvent inconfortable. Il se méfie des discours moralisateurs, des postures charitables qui servent surtout à se donner bonne conscience. Ce qui l'intéresse, ce sont les contradictions, les angles morts, les figures que la société tolère tant qu'elle ne la dérange pas trop. À ses côtés, il y a Jenny Anderson, photographe de formation. Elle partage ce goût pour l'observation silencieuse. Là où Ian transforme ses impressions en mots et en musique, Jenny les fixe sur pellicule. Elle ne cherche pas les faits et elle cadre sans embellir. Son appareil devient une extension de son regard. Leur relation est faite de dialogues discrets, de discussions tardives, de silence aussi. Jenny photographie Londres telle qu'elle est, sans filtre. Les rues, les visages, les existences qui passent sous le radar. Ian regarde ces images parfois distraitement, parfois longuement. Elles nourrissent son imaginaire sans qu'il sache toujours comment. À cette époque, les sans-abri font partie du paysage urbain britannique. On les croise, on les évite, on les contourne. Rarement, on s'arrête. Jenny, elle, s'arrête parfois. Non par compassion affichée, mais par intérêt humain. Elle photographie sans voler, sans mettre en scène, juste pour garder une trace. Un jour, lors d'une promenade dans un parc londonien, elle remarque un homme. Sa silhouette tranche. Un manteau trop grand, usé jusqu'à la corde. Une barbe épaisse. Une posture voûtée, comme si le corps avait appris à se faire petit. Il est là, posé sur un banc, respirant lourdement, le regard absent. Il n'a rien d'exceptionnel et pourtant, quelque chose accroche l'œil. Jenny sort son appareil, elle cadre, elle déclenche. La photo est simple, presque banale. Mais elle s'impose. Lorsque Ian la découvre, elle le dérange sans qu'il sache pourquoi. C'est pas la misère qui le frappe, c'est la présence. Cette impression d'un homme à la fois visible et totalement ignoré. Quelqu'un que tout le monde voit, mais que personne ne regarde vraiment. La photo reste là, posée, revue, reprise. Elle circule dans leur quotidien comme un objet familier. Ian ne la commente pas immédiatement, il la laisse agir. Il est de ceux qui ont besoin de temps pour comprendre ce qui les touche. À ce moment-là, Anderson est traversé par d'autres préoccupations. Il s'interroge sur la morale dominante, sur la religion institutionnelle, sur l'hypocrisie sociale. Il voit une Angleterre qui prêche la compassion tout en organisant l'exclusion. Une société prompte à juger, mais lente à comprendre. Ces thèmes l'obsèdent, sans encore trouver leur forme définitive. La photographie devient alors un point de fixation. Non pas comme une illustration, mais comme une question ouverte. Qui est cet homme? Que représente-t-il vraiment? Est-il victime, coupable, simple témoin d'un système qu'il a laissé de côté? Yann n'essaie pas de répondre. Il préfère laisser ses interrogations flotter. Il ne s'agit pas encore de raconter une histoire, encore moins de délivrer un message. Juste une intention. Anderson sent confusément qu'il y a là quelque chose à dire. Il cherche le bon angle pour se lancer. La musique à ce stade n'existe pas. Mais des contrastes se dessinent déjà dans son esprit. Une forme de tension entre douceur et brutalité. Entre observation calme et surgissement soudain. Comme cette vie figée qui peut à tout instant devenir dérangeante pour ceux qui préfèrent l'ignorer. Autour de lui, le groupe continue d'avancer. Les concerts s'enchaînent, les discussions autour du prochain album commencent à émerger. Yann sait qu'il veut aller plus loin, aborder des thèmes plus frontaux, se détacher définitivement des formats rassurants. Il cherche un fil conducteur sans encore le nommer. La photo de Jenny ne disparaît pas. Elle résiste, elle revient. Elle s'impose comme un rappel silencieux. Cette fois, Yann Anderson ne détourne pas le regard. Dans cette photo, il ne voit pas seulement un visage ou une silhouette parmi d'autres. Il y voit un sujet, un point de départ, quelque chose qui mérite d'être raconté. Le cliché ne le quitte plus. Il agit lentement, en profondeur. Et Yann Anderson finit par donner un surnom imagé à l'homme au manteau élimé et à l'allure fatiguée de la photo. Il l'appelle Aqualung, littéralement « poumon d'aquarium ». Pour évoquer sa respiration rauque, abîmée par la vie. Le jour où la femme de Yann Anderson a photographié ce SDF à la silhouette si particulière est le moment à l'origine de la chanson Aqualung, qui paraît en mars 1971 sur le quatrième album studio de Jethro Tull. À la sortie d'Aqualung, le choc est immédiat. Le morceau d'ouverture donne son nom à l'album Aqualung et impose d'emblée un ton plus frontal, plus dérangeant que tout ce que le groupe avait proposé jusque-là. C'était plus seulement un exercice de style, c'est un regard. Aqualung n'est ni une chanson compassionnelle ni un manifeste social. Yann Anderson refuse les deux. Il ne cherche pas à sauver son personnage, encore moins à le transformer en symbole héroïque. Il le décrit froidement par touches successives. Assis sur un banc du parc, il mate les petites filles avec de mauvaises intentions. De la morve s'écoule de son nez. Ses doigts graisseux tachent ses misérables vêtements, hein, Aqualung. Le sans-abri n'est pas idéalisé. Il n'est pas innocent par définition. Il est simplement humain avec ce que cela implique de contradictions, de fragilité et parfois de zones d'ombre. Anderson oblige l'auditeur à rester inconfortable. Impossible de se réfugier dans la pitié facile. C'est précisément là que réside la force du morceau. Les paroles fonctionnent comme une caméra qui s'approche trop près. Détails physiques, gestes quotidiens, regards fuyants. Anderson écrit à la troisième personne, mais sans distance morale. Il observe la manière dont la société regarde, ou plutôt ne regarde pas ces figures marginales. Le malaise est volontaire. Sounds, and the flowers bloom like madness. Te souviens-tu encore du brouillard glacial de décembre, lorsque la glace figée sur ta barbe hurlait à l'agonie et tu halètes bruyamment tes dernières respirations avec des sons de scaphandrier et les fleurs s'épanouissent comme la folie du printemps. Le narrateur décrit un homme que l'on tolère tant qu'il reste immobile, discret presque, décoratif. Mais dès qu'il existe trop fort, dès qu'il respire trop bruyamment, il devient gênant. Cette écriture clinique renvoie l'auditeur à sa propre position. Es-tu en train d'observer ou d'éviter ? Musicalement, Aqualung repose sur un contraste radical devenu emblématique. Les couplets acoustiques, calmes, quasi nonchalants. La voix d'Anderson est posée, ironique, presque détachée. Les explosions électriques, soudaines, lourdes, dominées par le riff de Martin Barr. Ce riff n'est pas décoratif. Il agit comme une rupture, une irruption brutale de la réalité, comme si la violence sociale, longtemps contenue, faisait soudain irruption dans le paysage sonore. Cette alternance crée une tension permanente, calme apparent, brutalité latente, exactement le mécanisme de l'exclusion sociale que décrit la chanson. La pochette de l'album n'est pas une illustration abstraite, elle est la continuité directe de l'intention du morceau. Inspirée par les photographies de Jenny Anderson, elle montre un vieil homme fatigué, à la barbe blanche, regard fuyant, manteau usé. Beaucoup pensent y voir Aqualung lui-même. Anderson n'a jamais cherché à confirmer ou infirmer, peu importe. L'image remplit sa fonction et l'oblige à regarder. Elle place cette figure marginale au centre du disque, littéralement et symboliquement. À sa sortie, Aqualung divise. Certains critiques y voient un morceau cynique, voire provocateur. D'autres saluent la maturité du propos et la puissance musicale. Le public s'empare immédiatement du titre. Avec le temps, Aqualung devient l'un des morceaux les plus diffusés de Jethro Tull, un classique du rock des années 70, mais aussi une référence pour sa construction musicale et son propos social. Même si Anderson restera toujours clair, c'est pas une chanson sur les sans-abri. C'est une chanson sur notre manière de les regarder. Avant Aqualung, Jethro Tull était un groupe original, respecté, parfois ironique. Après, le groupe assume pleinement une écriture plus sombre, plus critique, plus ambitieuse. Tout est parti d'un regard. Aqualung n'apporte pas de solution. Il pose une gêne durable et c'est précisément pour cela qu'il continue de résonner aujourd'hui.
sun-streaking cold. An old man wandering lonely, taking time the only way he knows. Leg hurling fast as he bends to pick a dog end. He goes down to the bog and warms his feet. Feeling alone, the armies of the road, salvation and alone.
Retrouvez tous les épisodes de cette séquence sur l'app RTBF Actu.
Classique 21, le média rock de la RTBF.